grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour, heureux de vous retrouver dans Grand Bien Vous Fasse en direct ou en podcast. Comme une envie de glander encore quelques jours, fugace pensée chez tous ceux qui ont eu la chance de partir en vacances et qui reprennent le boulot, l'école, la fac, une activité associative, quoique les vacances ne sont pas forcément synonymes de glande, surtout pour les adeptes de vacances utiles. Glander, paresser, ne rien branler, des activités qui prennent beaucoup de temps et qui sont souvent mal vues, vilipendées, critiquées, fustigées, à tort ou à raison. Comment expliquer cette mauvaise réputation du glandeur dans nos sociétés industrieuses? Existe-t-il d'ailleurs un art français de la glande dans un pays réputé paresseux? On essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête des glandeurs, de ceux qui ont un baobab dans le creux de la main, de tous ceux qui sont affectés de flémingite aiguë. Comprenez-vous cette envie de ne rien faire ou presque? Souffrez-vous d'être obligé de glander à cause de certains événements de vie? Et de façon plus légère, dites-nous quel type de glandeur êtes-vous? J'attends vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Avec nous ce matin, le romancier Frédéric Chouraqui que nous attendons, le dessinateur Stéphane Trappier, l'écrivain et professeur de philosophie Frédéric Schifter, et avec l'anthropologue au regard acéré Abdou Gnaba. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali Rebelli.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. On retrouve votre chronique désormais le mercredi. Vous avez bien glandé cet été ?
J'aurais voulu glander davantage, je crois.
Mais oui, vous avez parlé d'une découverte estivale, la cheminée colombienne.
Oui, si
c'est
vous voulez.
C'est quoi ça ?
Ah bah c'est une façon formidable de préparer le barbecue, totalement révolutionnaire, que j'espère importer dans nos latitudes.
Donc vous êtes un adepte de la cheminée colombienne. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans le 1 cette semaine ?
Eh bien on s'interroge, et si vous changiez de vie ? C'est un peu la question qu'on se pose ces derniers jours, hein, vous n'avez pas l'impression ?
Exactement, allez à tout à l'heure, vers 11h05. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebelli.
J'ai horreur des gens qui parlent de leur métier, et les femmes surtout. Alors, je prends délibérément des airs paresseux.
Et vos personnages, ils ont aussi un air paresseux, je trouve.
Oui, c'est devenu tellement délicieux, tout le monde est tellement efficace maintenant, c'est la barbe. Efficace, précis, organisé, gna. Moi, je n'ai pas sur la tête. Si je trouve quelqu'un qui me dit, une homme ou une femme qui me dit, qu'est-ce que vous faites demain, je dis, je sais pas, eh bien, je suis enchantée. C'est le bonheur pour moi. Que faites-vous pour les vacances? Je ne sais pas. Que faites-vous pour rien? J'adore ça.
Françoise Sagan, paresseuse de génie en 1973. Quel glandeur êtes-vous? C'est la question que je vous pose ce matin au 01 45 24 7000. Avec nous, le dessinateur Stéphane Trappier qui publie La France qui glande chez Milan et Demi. Son co-auteur, Frédéric Chouraqui, a décidé de glander et de ne pas venir ce matin. On l'attend toujours. Avec nous également, depuis France Bleu à Bayonne, le professeur de philosophie et écrivain Frédéric Schifter, l'auteur de Journée perdue chez Séguier, et avec nous également l'anthropologue Abdou Gnaba du cabinet Sociolab. Alors Stéphane Trappier, glander c'est ne rien faire, perdre son temps, synonyme glandouiller, mais il vient d'où ce mot glander ?
Mais je crois que, puisque j'ai quand même lu un tout petit peu le livre que j'ai illustré, très peu parce que j'adore glander et donc lire c'est toujours un effort, je crois qu'au départ c'était les paysans qui amenaient les cochons, les porcs à la glander. Voilà, et je pense que moi personnellement, si je devais amener toute une corde de porc à la glander, ça me ferait assez peur. Donc glander, c'est très compliqué.
Alors vous avez donc illustré La France qui glande avec de très beaux dessins, souvent surréalistes. Quel type de glandeur êtes-vous ?
Je suis un glandeur contrarié, sinon je pense que je serais chez moi à l'heure actuelle. Voilà, dessiner c'est être glandeur contrarié parce que ça demande malheureusement beaucoup d'efforts, enfin en tout cas à moi. Il y a peut-être des gens qui font ça facilement, mais... moi, ça m'est difficile.
Frédéric Schifter, vous l'aimez ce verbe glander, ça vous parle ou préférez le mot paresser, ne rien foutre, ne rien fiche? Qu'est-ce que vous... il vous plaît ce mot glander?
ne me déplaît pas, mais je préfère flémarder. Je trouve qu'il est... d'englander, c'est un mot un peu trop rapide. Flémarder, il y a déjà un alanguissement qui se dessine. Et voilà. Bon, c'est une question d'allitération, je pense.
Quel flemmard êtes-vous? La paresse est naturelle chez l'homme à l'état sauvage, selon Rousseau. Et la paresse me semble très, très naturelle, hein, chez vous, Frédéric Schifter. Quand on lit votre dernier ouvrage, vous dormez beaucoup, vous aimez rester allongé, immobile, à ne rien faire?
Eh bien oui, mais je ne me force pas, si j'ose dire.
Vous ne forcez pas votre
nature?
C'est comme
ça, oui, non, mais... C'est une sorte de pli que j'ai contracté très tôt dans l'existence. Peut-être que déjà dans le ventre de ma mère, je flémardais. Et puis, peut-être... Alors, vous savez, on dit toujours de quelqu'un, des fois, on dit oh, « c'est un fatigué de naissance ». Moi, je crois que c'est ma naissance qui m'a fatigué, vraiment, et je m'en remets pas. Et donc, je me repose de cet événement, je crois, majeur.
La paresse, la glande, la flémardise, c'est plutôt une philosophie pratique pour vous ou une vision du monde ?
Écoutez, moi, je pense que c'est une éthique. Je crois que le flemmard, si on y réfléchit bien, on ne peut pas l'accuser de porter du tort à l'humanité, si vous voulez. Ce dont il faut se méfier, ce sont les gens qui ont toujours des projets, qui sont toujours sur la brèche, qui veulent absolument changer le monde, l'humanité, qui ont toujours comme ça qui élaborent des plans. Et ceux-là, ils sont, à mes yeux, sont extrêmement suspects de. Oui, il faut craindre le pire. Tandis que le flemmard, il tend vers l'immobilité, il a quelque chose de végétal en lui, et donc par conséquent, il n'y a rien à craindre de lui. La flemme est une éthique du bien, je crois.
Frédéric Schifter, il me semble que cette philosophie de la glande, de la flémardise, demande à la fois des nerfs d'acier, une grande richesse intérieure et pas mal de volonté, paradoxalement.
Je crois qu'il faut à un moment donné, effectivement, c'est-à-dire que l'époque, le monde, enfin la société, fait pression constamment sur l'individu pour que il bouge, il travaille, il s'occupe, même dans ses loisirs. D'ailleurs, vous remarquerez que dans l'Antiquité, on ne disait pas les loisirs, on disait le loisir, c'est-à-dire le temps à soi, le temps libre. Or, aujourd'hui, on parle des loisirs. Et au pluriel, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, il faut se désennuyer à tout prix. Bon, donc la société est toujours en train de solliciter l'individu pour qu'il il bouge, quoi. Or, effectivement, il faut une détermination pour ne pas bouger. Il faut opposer une sorte d'inertie. Et cette inertie, demande... parfois une détermination presque guerrière, voilà. Mais c'est très simple, hein. Il faut se calfeutrer chez soi, fermer la porte, et voilà.
Abung Daba, pour l'anthropologue que vous êtes, la glande, la flémardise, la paresse, c'est un contrepoint nécessaire aux habitudes de nos sociétés de consommation?
Le glandeur, c'est le point fixe dans un monde agité. C'est ce qui nous permet de mesurer à quel point on bouge dans tous les sens. Et la question qu'il nous permet de nous poser, c'est quels sont tous ces sens et quel est le sens que l'on donne à notre agitation. C'est pour ça que l'on voit les glandeurs de plus en plus valorisés dans les séries télé. Depuis The Big Lebowski, on sait que le glandeur est une icône pour le cinéma, des frères Cohen. Alors, la glande, c'est justement le principe d'arrêt dans une société qui nous considère nous-mêmes comme des objets. Nous sommes dans une société de consommation, pleine d'objets, et on finit soi-même, en tant qu'être humain, à se considérer comme un objet. Je veux pour preuve la façon dont on parle de soi-même. Je suis cassé, comme si on était un objet. Je pète le feu, comme si on était une machine à vapeur. Je capte pas, comme si on était un radar. Je fonctionne pas, etc., etc. Donc, à force de vivre dans ce monde des objets, on finit soi-même par se considérer comme tel, et à n'avoir plus qu'un seul but, la performance, et plus qu'une seule récompense, la quantité. La glande, c'est ce temps d'arrêt, le glandeur, ce point d'appui qui nous permet de voir que l'on court dans tous les sens.
Julien Bisson, l'un des saints patrons, l'un des nombreux saints patrons des paresseux, des glandeurs, c'est le personnage d'Herman Melville, Bartleby, le scribe velléitaire qui dit à son patron avec la constance du sage « Je ne préférerais pas ».
« Je préférerais ne pas ».
Exactement.
« Je préférerais ne pas ». Oui, c'est Bartleby, c'est un personnage assez incroyable. Et c'est effectivement un personnage qui déstabilise entièrement son environnement. parce que justement, on est habitué à exécuter les tâches qu'on nous demande. Et Bartleby, c'est celui qui oppose son apathie, qui oppose son refus à cette folle course du monde, à ce mouvement perpétuel. Et en ce sens, il a une figure de résistance très très moderne, parce que Melville écrit cette petite nouvelle. C'est pas un très gros livre, c'est une petite nouvelle au milieu du 19e siècle, et elle est encore à relire aujourd'hui de ce point de vue-là.
Frédéric Schifter, c'est l'un de vos saints patrons, Bartleby, d'Herman Melville.
Ah oui, c'est un chef-d'œuvre. Mais moi, j'invoquerai un autre chef-d'œuvre aussi, c'est le chef-d'œuvre d'Albert Cossery, les fainéants dans la vallée fertile.
Oui.
Où là, on voit une famille qui a décidé effectivement de ne jamais travailler jusqu'au jour où l'un des fils annonce à son père qu'il veut aller à la ville pour travailler. Le père est absolument effondré. Je dis, mais enfin, je ne t'ai pas élevé dans cet esprit-là. Que vas-tu faire à la ville? Mais j'essaie de gagner ma vie. Mais quelle horreur! Arrête d'être insolent et d'être grossier. Gagner sa vie. Mais c'est, comment peux-tu parler de cette manière? Et c'est un roman extrêmement subversif. D'ailleurs, comme tous les romans d'Albert Cossery, qui dépeignent toujours de grands fainéants qui ne foutent rien du matin au soir, qui discutent, qui boivent, qui fument du cannabis. Et moi, je pense que ces livres-là devraient être étudiés dans toutes les écoles, dans les lycées, parce que on voit bien que la société libérale aujourd'hui veut absolument des gens performants, des gens qui s'impliquent, pire, des gens qui s'investissent. Alors là, on a carrément, effectivement, vraiment l'esclave même qui doit s'investir dans une tâche, en plus, qui le dépasse complètement. Mais enfin, bon, voilà. Donc, oui, bien sûr, Bartleby, Melville, Cossery, ce sont évidemment des auteurs de référence. Oui.
Abdoung Naba, je mets à la place de certains de nos auditeurs qui sont, par exemple, au chômage, qui souffre de ne rien faire, qui souffre de devoir, par obligation, de paresser, de glander. C'est une souffrance également, le fait de glander, de paresser, de ne rien faire, quand on est contraint par certaines circonstances de la vie.
C'est là toute la question, et c'est important de distinguer paresse de non-action. La paresse, c'est pas une non-action, c'est une action immobile, c'est une action dense, mais ça reste une action, et ça ne vaut que si c'est volontaire. Là, le chômage ou toute période d'invalidité, d'immobilité non souhaitée, c'est bien sûr une véritable souffrance. C'est pour ça qu'il faut voir dans la glande ce qu'elle nous dit, ce qu'elle signifie vraiment, la possibilité et la volonté de se connecter avec soi-même, d'être avec soi-même. Il y a dans le livre de Chouraki, justement, c'est un petit passage qui nous dit bien, essayer de rester quelques heures sans rien faire, complètement immobile, sans l'avoir voulu, et le pistolet ne sera pas très loin. Justement, la question est, sommes-nous capables d'être seuls avec nous-mêmes?
Bonjour Chloé.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission, je suis ravi de vous accueillir dans Grand Bien Vous Fasse. Quelle glandeuse êtes-vous, Chloé?
Je me qualifierais comme glandeuse stressée.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que plus j'ai des choses à faire, plus j'ai envie de rien faire. Et j'adore m'allonger et rien faire du tout. Enfin, c'est très bizarre. C'est le stress qui me donne envie de dormir.
C'est vrai. Alors, quel plaisir vous éprouvez à glander?
C'est relaxant.
Mais vous nous avez dit, hors antenne, vous nous avez écrit que glander, ça vous stresse tout de même. Enfin, c'est assez paradoxal, parce que vous aimez dormir, vous aimez vous allonger, mais ça vous stresse quand même. Hein.
Oui, parce que les choses s'accumulent. Au début, on a un peu de temps, donc c'est pas grave si on fait rien, mais plus on repousse, plus il y a de choses à faire. Et c'est un cercle qui continue comme ça, où plus tu glandes, plus tu stresses, mais glander fait du bien, du coup tu déstresses et ça tourne en rond.
En fait, vous êtes culpabilisé par cette procrastination?
Oui, c'est ça. Complètement.
Frédéric Schifter, sur ce témoignage de Chloé, qui est assez ambivalent, hein, plaisir de s'allonger, de ne rien faire, de dormir, mais culpabilité tout de même de procrastiner.
Oui, alors, je comprends, parce que c'est une glandeuse débutante. De ce fait, elle éprouve certainement un peu de culpabilité à l'idée de repousser des tâches qu'elle pense urgentes, qui le sont peut-être d'ailleurs. Mais il faut qu'elle apprenne justement à se détacher de cette culpabilité. Et que elle glande en toute innocence, enfin en toute insouciance, en toute indolence. car glander avec cette pointe, comme ça, ce petit nuage noir au-dessus de la tête qui se dit « Oh, bon !» Non, il faut vraiment, il faut absolument se détacher de ça. Mais effectivement, ce n'est pas si facile, parce qu'encore une fois, les sollicitations sont grandes, sont pressantes. Bon, mais je pense que notre auditrice va apprendre vite.
Merci Chloé, vous pourrez d'ailleurs prendre des leçons de glande ou de paresse en lisant le tout dernier livre de Frédéric Schifter. Merci Chloé. Stéphane Trappier, je rappelle que vous avez dessiné La France qui glande, que nous attendons toujours son auteur Frédéric Chouraki qui était invité ce matin. Est-ce qu'il existe pour vous un art français de la glande, comme il existe un farniente italien?
Frédéric Chouraki, ça commence pareil, le pense, il le décrit, mais alors vous savez, j'ai en lisant le livre, j'oublie à chaque fois ce que je viens de lire.
C'est l'ardoise magique.
C'est l'ardoise magique parce que je rentre et alors je fais le dessin et je ne sais plus de quoi parle le dessin.
À Bougdaba, il y a un art français de la glande.
En tout cas, c'est comme ça que les étrangers le décrivent et c'est ce que démontre bien, c'est ce que illustre bien Stéphane et Frédéric dans leur livre. Les étrangers, surtout les Européens, nous voient comme des glandeurs professionnels, des gens qui sont capables de rester 2 heures à une terrasse pour boire un café et regarder passer le monde, voir les gens et en plus critiquer. Ça, c'est tout à fait étonnant pour un Américain qui débarque à Paris, qui vient à Saint-Germain ou ailleurs, dans tous les bistrots, voir ces gens ne rien faire d'autre que d'être là. Alors oui, il y a une façon tout à fait française.
Il y a une part de caricature quand même.
Évidemment, il y a une part de caricature, mais il y a aussi une part de savoir prendre le temps de vivre et surtout de ne pas accepter, parce que le français, il a quand même une particularité, c'est qu'il sait dire non. Alors il y a un moment, il va râler, quoi qu'il se passe dans sa vie, dans son histoire, il a un truc à faire, il va dire non, là... Je m'oppose, je fais quelque chose, ce qui n'est pas du tout le cas d'un Allemand ou d'un Anglais, par exemple, je caricature évidemment, qui vont attendre 5h, 18h, Feierabend pour les Allemands, pour aller boire sa bière, et là, le temps du loisir est ouvert. Le Français est capable, même pendant l'heure du déjeuner, de faire une petite entorse, de prendre 5 minutes de plus pour ne rien faire.
Frédéric Schifter, existe-t-il pour vous un art typiquement français de la glande, de la flémardise ?
S'il existe, à mon sens, il s'est perdu.
Qu'est-ce qui s'est perdu ?
Eh bien, je ne sais pas. Alors, ça fait partie de mon art de flémarder. Je flâne aussi, et en flânant dans le monde, je trouve que les gens s'agitent beaucoup. Et alors, hors en vacances évidemment, mais même en vacances, je les trouve très énervés, très excités, très 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 mobiles. Enfin, et j'en vois peu qui justement flânent, parce que comment dire le flâner, enfin moi ce que j'appelle flâner, c'est-à-dire se promener sans aucune intention et regarder le monde sans aucune autre intention que de le regarder, je trouve qu'il y a, je rencontre peu de, comment dire, de d'homologues, de peu d'ego avec qui justement parler de tout ça. Et à chaque fois que je tombe sur quelqu'un, quelqu'un me dit « Ah, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» C'est la première question qui vient. Et on ne me demande jamais, par exemple, « Qu'est-ce qui vous intéresse ?» Ça, c'est intéressant comme question. « Qu'est-ce qui vous intéresse ?»
Vous répondez quoi ? Rien ?
Ah si, mais bien sûr. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est la littérature, c'est la philosophie, cinéma, regarder les femmes, aller aux terrasses des bistrots, voilà. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ? C'est la question qui montre bien que l'art de ne rien faire, c'est un peu perdu quand même, ou totalement perdu.
Frédéric Schifter, parfois à cette question « Que faites-vous dans la vie ?», je réponds « Rien ». Et c'est vrai que ça a tendance à décontenancer l'interlocuteur, ouais. Abnoukdaba.
Justement, c'est la situation en miroir. À chaque fois qu'on va parler de paresse ou ici de glande, il faut toujours le remettre dans son contexte social. Quand vous faites quelque chose, c'est que vous ne faites pas autre chose. Or, une société veut que les différents membres de sa tribu lui ressemblent. En tout cas, est une certaine homogénéité. À partir du moment où vous glandez, vous êtes en dehors de ce que l'on attend de vous, à savoir le mouvement.
Julien Bisson.
Oui, et d'ailleurs, les expressions de nos grands-mères, enfin, on nous rappelle quand même que l'oisiveté est mère de tous les vices. Donc cette espèce de sacralisation de la glande dont on parle depuis tout à l'heure, elle n'est pas totalement évidente non plus dans notre société. On ne peut pas dire que les Français soient de façon générale et rejeter le caractère industrieux de notre société. Mais on n'est pas les seuls non plus à avoir cette culture-là. En Russie, où il y a ce grand roman qui est Oblomov, de Gontcharov.
Publié en 1859.
1859, qui a donné chez eux l'oblomovisme. C'est vraiment quelque chose qui traverse leur société. Alors, peut-être qu'on peut dire deux mots sur Oblomov, qui fait partie de ces personnages littéraires, adeptes du divan, adeptes du ne rien faire, adeptes de l'apathie volontaire, et qui est d'ailleurs, comme le disait Frédéric Schifter, est du genre plutôt à se méfier de ceux qui sont dans l'action, parce qu'ils considèrent tous les tenants, les aboutissants de l'action, en se disant, mais si je me lance dans cette action-là, il est possible, voire probable, qu'elle ait des conséquences néfastes. Et donc, il vaut mieux se réfréner, il vaut mieux essayer de plutôt se rester chez soi, rester dans sa robe de chambre. Il y a un passage que j'aime bien où il dit ceci, à peine sorti de son lit le matin, le voilà qui se couche sur son divan, se pose la main sur le front et réfléchit, jusqu'à ce que, épuisé par ce pénible travail, il murmure en toute bonne conscience, assez peiné aujourd'hui pour le bien commun.
Oblomov à lire notamment en poche chez Folio. Comprenez-vous le besoin de glander? Dites-nous quel type de glandeur êtes-vous. J'attends vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Allez, ce n'est pas vraiment une bande de glandeuses dans l'équipe. Hein. Alexia Rivière et Claire Destacan à la préparation avec Isabelle Olivier et avec Stéphanie Texier à la réalisation. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. Bob Marley and the Wailers.
Tu dors depuis 3 jours?
Eh ben justement, c'est le moment, je récupère, je rattrape, salut.
Grand bien vous fasse.
Elle travaille?
Je m'en fous.
Sur France Inter.
10h30, dites-nous quel glandeur êtes-vous? Comprenez-vous ceux qui professent la glande comme art de vivre, comme dans cet extrait du film Libre et assoupi?
Bon, Sébastien, il est 13h, alors maintenant tu te lèves.
Oh. Tu t'es décidé? Quels sont tes projets pour la rentrée?
Rien.
C'est-à-dire?
Bah, je me suis dit que j'allais prendre un petit peu de temps pour moi. Prendre une année sabbatique, peut-être même deux.
Tu vas prendre du temps pour toi. Mais t'as pas le temps de prendre du temps pour toi, c'est maintenant qu'il faut te lancer dans la vie. T'as quand même pas fait bac plus 10 pour ne rien faire au final.
Il y a aucun travail qui me fait vraiment envie, alors je me suis dit, plutôt que de faire n'importe quoi, bah j'allais rester ici, hein, prendre mon temps tranquillement.
Mais alors tu veux rien faire de ta vie?
Je la supporte pas cette phrase. Donc on est défini uniquement par ce qu'on fait et non pas par ce qu'on est. Non mais tu te rends compte, ça veut dire que si tu fais rien, t'es rien.
Écoute, t'es pas un peu vieux là, hein, pour faire ta crise d'adolescence? Elle est bien jolie, ta théorie. Mais en pratique, pour vivre, il faut un travail.
Oui, mais il n'y a aucun travail qui me plaît.
Voilà. Mais le travail n'est pas une notion de plaisir. Sinon, ça s'appellerait un loisir. Sans travail, tu vivrais comment?
Bah justement, je me disais que comme j'étais le fruit de vos entrailles, que vous pourriez m'aider.
Bah oui, on va t'aider, oui, bien sûr.
Un extrait de l'adaptation du très bon roman de Romain Monnery, Libre, seul et assoupi. Alors, dans le roman et dans le film, le héros refuse de travailler par choix et par apathie. Ne pas vouloir travailler volontairement peut être vu comme un acte de subversion, Abdou Ndaba.
Toujours pareil, dans notre société qui attend de nous que nous soyons des soldats de la production, on va distinguer travail, production et vacances, donc quelque chose de libre. Et pourtant, il y a une erreur fondamentale qui est réalisée là, puisque le mythe de notre société a changé. C'est très important et c'est ce que signifie bien l'acteur principal dans ce film. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus besoin de travailler. C'est un peu choquant, mais les révolutionnaires ont réussi leur pari. Nous sommes dans une société qui est débarrasser du travail. Le travail, ça vient de tripalium. Tripalium, c'est un instrument de torture. Et vous savez comment on s'appelle, nous, les républicains? On s'appelle des citoyens. Or, les citoyens, dans la Grèce antique, c'était des aristocrates. Vous allez me dire, mais des révolutionnaires qui nous nomment de noms d'aristocrates? Ouais. Parce que l'aristocrate, donc le citoyen, avait le temps de faire de la philosophie, de penser la politique et de discuter sur le forum de comment mieux vivre ensemble. Mais il y a une différence entre les aristocrates et le citoyen, c'est qu'il y a une hiérarchie chez les aristocrates, le prince, le comte, le vicomte, le sous-prince. Chez les citoyens, ils sont tous égaux. Donc ils ont voulu faire en sorte que l'on travaille pour se débarrasser de ce travail et devenir tous citoyens. On y a réussi, le mythe de notre société a changé, et c'est ce que les jeunes ressentent bien, puisqu'on voit dans toutes les entreprises une crise qu'on appelle une crise de sens, qui est en fait une crise de notre société.
Mais Abdou Ndaba, on l'évoquait tout à l'heure, parmi ceux qui nous écoutent, des chômeurs qui souffrent de ne rien faire, je connais beaucoup de chômeurs qui deviennent dingues à force de ne rien faire, de ne pas travailler.
Vous savez, quand une usine ferme, les ouvriers de l'usine pleurent pas la perte de leur travail, ils pleurent la perte de leur village. Travailler, c'est œuvrer en fait, c'est faire quelque chose de productif, mais aussi faire quelque chose pour soi et faire quelque chose avec les autres. On regrettera jamais un travail si on le fait tout seul et s'il nous apporte aucun plaisir, s'il nous apporte aucune autre satisfaction que pécuniaire. Jamais. On travaille toujours pour autre chose que le seul salaire, ou alors c'est ce qu'on appelle vraiment de l'alimentaire. Et là, c'est le début de la dépression.
Frédéric Schifter, je rappelle que vous êtes écrivain et professeur de philosophie.
Oui.
Sur le fait que on n'ait pas envie de travailler, comme le personnage de Libre, seul et assoupi.
Oui. Eh bien, moi, je dirais que peut-être que ce garçon, ce jeune homme, porte en lui une nostalgie c'est un nostalgique de l'Éden, en fait. Ce moment avant l'histoire où le couple originel ne travaillait pas. Parce que d'ailleurs, au fond, si on réfléchit à la notion de paradis, c'est vraiment le lieu où on ne travaille pas. Adam et Ève ne travaillaient pas. Ils vivaient d'amour et d'eau fraîche. Et d'ailleurs, c'est si vrai que quand ils ont désobéi, Dieu les a donc éjectés du paradis. Et là, il les a condamnés au travail, n'est-ce pas? Tu gagneras ta vie et la sueur de ton front, a-t-il dit Adam, et toi, tu accoucheras dans la douleur. Or, l'accouchement, c'est un travail aussi, hein, en termes cliniques. Bon, donc, effectivement, je pense que dans tout glandeur, comme on dit aujourd'hui dans l'émission, tout flemmard, comme je préfère, ou tout fainéant, je pense qu'il y a un nostalgique de l'Éden, c'est-à-dire à la fois d'un lieu et d'un temps où on est véritablement à soi. Et alors, je voudrais rajouter une chose. C'est à propos des gens qui effectivement peut-être ne supportent pas d'être inactifs ou totalement oisifs, alors soit par force, bon, peut-être aussi par choix, parce que quelque chose les effraie, c'est l'ennui. L'ennui, c'est vraiment on est face au temps. au fond, le travail nous libère de cette crainte de se retrouver face à un temps vacant, etc. Or, je pense que le vrai glandeur, c'est celui qui assume l'ennui et qui, allez, j'irai même plus loin, qui, d'une certaine façon, le recherche. Parce que dans l'ennui, c'est, je crois, l'ennui, c'est vraiment la véritable épreuve de soi-même. Tant qu'on ne s'est vraiment pas ennuyé jusqu'au bout de l'ennui, on ne sait vraiment pas ce que l'on vaut, je crois. Et surtout que l'ennui nous pousse à trouver des activités, mais je vous rassure, pas tout de suite du travail, une chose, un job, hein, non. C'est-à-dire effectivement des activités comme la lecture, comme l'écriture, enfin toutes ces activités contemplatives qui font que l'ennui devient œuvre.
Et c'est ce bon vieux Suran qui disait que s'ennuyer, c'est chiquer du temps. Alors on reçoit quelques messages. Hein. Nat qui nous dit « La glandouille me fait du bien, j'aime me mettre dans mon canapé, boire un thé, ne penser à rien. C'est vital pour mon équilibre. » Et pour vous Dorothée, bonjour Dorothée, au téléphone avec nous, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Quelle glandeuse êtes-vous ? Est-ce que vous êtes une glandeuse vous ?
Bonjour. Alors ben non, moi je suis pas du tout une glandeuse, mais je le regrette en fait.
Pourquoi ?
C'est-à-dire que parce que finalement j'envie beaucoup les gens qui savent paresser, parce que je me dis qu'il faut savoir probablement dans la vie quelquefois s'arrêter, comme ça prendre le temps de ne rien faire. Et alors moi j'en suis complètement incapable parce que dès que j'essaye de le faire, je culpabilise beaucoup en fait. Et je pense que c'est vraiment lié à, j'ai entendu tout à l'heure, notamment dans les extraits que vous avez passés, lié au fait que il faut pouvoir aujourd'hui être productif tout le temps. Et puis moi j'ai cette impression que si je ne fais pas des choses, eh bien c'est comme si je ne servais pas dans ce monde dans lequel j'appartiens. Enfin vous voyez. Et du coup, je ne m'autorise pas à ne rien faire.
Est-ce que vous êtes sensible à ce discours qui existe dans une partie de l'opinion publique et dans le personnel politique, que le glandeur, c'est un assisté, certains parlent même avec subtilité de cancer sur pattes, pour parler des glandeurs. Vous êtes sensible à ce discours, est-ce que ça contribue à votre culpabilité ?
Alors oui, j'y suis sensible et je pense que je l'ai vraiment même intégré. Et d'autant plus que, alors moi je suis intermittente du spectacle, ce qui fait qu'on travaille avec l'État aussi qui nous paye quand nous ne sommes pas en spectacle, etc. Ce qui fait que moi, quand je ne suis pas en spectacle, je ne m'autorise pas du tout à rien faire parce que je me dis sinon je suis entre guillemets presque une charge. Pour l'État qui me dédommage par ailleurs, il faut absolument que je fasse des choses, vous voyez. Et du coup, ça entretient ce fait d'être en activité tout le temps, quoi.
Bonjour Nicolas, reste avec nous, Dorothée. Bienvenue Nicolas, bienvenue dans l'émission.
Oui, allô.
Bonjour Nicolas. Alors vous, bonjour. Nicolas, vous êtes un glandeur actif, c'est ça ?
Oui, en quelque sorte.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'adore la glande, ne rien faire, la méditation. Mais ce que j'adore, c'est au printemps quand je vois pousser les herbes dans mon gravier. Parce qu'on a un grand jardin, il y a beaucoup de gravier, et je me dis cet été c'est génial, je vais pouvoir glander. Et donc l'été il y a beaucoup trop de choses à faire dans la maison, mais bon, si ma femme me voit dans le jardin en train de travailler, elle dit ça va pas me déranger. Et donc je suis allongé sur le sol et j'enlève un à un tous les brins d'herbe jusqu'à la racine. Alors je suis allongé, je peux être assis. C'est génial parce que ça me permet de méditer, je peux écouter la radio. Et alors j'ai une anecdote extraordinaire, il y a une dizaine d'années, j'étais devant la maison, il y a du gravier, et j'étais allongé de façon romain, vous voyez, bon. Et puis il y a une voiture qui passe, et hop, qui freine d'un seul coup, et qui revient en arrière. Et la vitre se baisse, ils disent « Monsieur, ça va pas, vous faites un malaise ?»« Ah ben non, pas du tout, je travaille, je désherbe. » Et ça, c'est génial, parce que je crois qu'on peut très bien être actif, mais prendre le temps de faire les choses. J'ai mon bureau, il y a toujours 10 000 papiers qui s'entassent. Alors je vais ranger mon bureau, mais ça va prendre des jours l'été. Et je regarde chaque papier, ça me fait penser à ça, je vais voir autre chose. En fait, la glande, c'est aussi s'ennuyer, mais c'est réfléchir. C'est
Nicolas, je trouve, à titre personnel, que vous êtes un glandeur sacrément actif quand même. Hein. Vous ne trouvez pas Frédéric Shifter ?
Non, mais je pense qu'il y a plusieurs styles, il y a plusieurs écoles de la glande. Et ce monsieur me semble un glandeur tout à fait honnête. Hein.
Je
ne le critiquerai pas.
Je suis d'accord.
Mais ce qu'il souligne quand même, c'est intéressant. C'est-à-dire que justement, cette anecdote de ce monsieur qui s'arrête, c'est... On est toujours un peu surpris de voir quelqu'un qui ne fait rien et enfin qui n'a pas l'air de faire quelque chose qu'il faudrait faire en tout cas, enfin comme les codes sociaux le demandent. L'ennemi, je crois, à abattre aujourd'hui dans notre société, qui s'appelle chômeur, qui s'appelle même le retraité, alors qu'il a travaillé, etc., c'est l'oisif. Et par-delà le l'oisif, c'est d'une certaine façon le loser, vous voyez. Quand on ne travaille pas, on est d'une certaine façon un loser. Bon, je sais pas pourquoi j'ai toujours aimé les perdants. J'ai toujours aimé ceux qui rataient les compétitions parce qu'ils s'étaient pas assez entraînés, parce qu'ils sont à la traîne. Être à la traîne, c'est effectivement on est les derniers à aller au casse-pipe déjà, c'est déjà bien. Et ensuite, ça veut dire qu'on a pris le temps en chemin. Je reviens à ma flânerie. On a pris le temps de flâner, etc. C'est le lièvre de la fable. Il a raison, le lièvre. Il a pas, la tortue est stupide comme ça d'avoir toujours son chemin tracé là. Le lièvre perd la course. Pourquoi? Parce qu'entre temps, il a vagabondé, il s'est baladé, il a vu du pays, voilà. Et le lièvre, c'est le loser magnifique.
Merci beaucoup, Dorothée et Nicolas, de nous avoir appelés ce matin. Vous êtes d'accord avec ça, Stéphane Trappier? Je rappelle que vous avez dessiné l'ouvrage La France qui glande avec Frédéric Chouraqui, qui a décidé de glander ce matin, qui n'est pas venu. Il a raison, le lièvre?
Il a certainement raison.
Ou c'est plutôt la tortue qui a raison?
Alors déjà, ça me fait penser qu'avant, on était peut-être l'art de la française de la glande s'est perdu, puisque maintenant on adore gagner et on sort dans la rue des drapeaux quand on gagne, ce qui me semble moins extravagant. Et je n'ai que de belles souvenirs en sport que de défaites. Effectivement, moi je préfère travailler en vacances, par exemple. Vous voyez, je trouve que les vacances, c'est l'un des meilleurs moments pour travailler, parce que on n'a pas de, pour une fois, on n'a pas de moins de pression, pas de rendu à faire. Et alors, j'emmagasine plusieurs mois de travail à l'avance dans des carnets et je mets tout 6 mois, 8 mois ensuite pour rattraper le temps perdu de ce que j'ai fait pendant mes vacances.
Glander, c'est un acte politique, une forme de désobéissance civile. Dans Oncle Vania, Tchekhov écrit que la paresse et l'oisiveté, c'est contagieux. Glander, c'est contagieux sans doute pour le premier ministre chinois, Xi Jinping, qui en 2014 s'est trouvé un nouvel ennemi. Les glandeurs, les branleurs, en chinois on dit diaozi, j'espère que je le dis bien, diaozi, littéralement poil de bite. C'est une forme de désobéissance civile. Abdoung Daba, pour vous, je rappelle que vous êtes anthropologue.
Toute société cherche à fonctionner, justement, en tout cas à perdurer. Et puis pour perdurer, il faut, en tout cas dans nos sociétés dites libérales ou industrielles, en tout cas, puisqu'on parle de la Chine, il faut savoir produire. Et à partir du moment où on décide de ne pas être efficace, donc de ne pas vouloir produire tel qu'on nous aura demandé de produire, effectivement, on va très vite passer de étrange à étranger à dangereux. Parce que, une fois de plus, permettre de glander, c'est offrir un point d'appui qui permet de relire toute la société à l'aune de ce point et de voir que nous sommes agités. Si on n'adhère pas au sens de la société, alors forcément cette agitation devient complètement absurde. Mais pour la Chine, on peut très bien comprendre que il y a un système, et donc il est quelque part plus facile justement de se rebeller. Dans un pays bien plus démocratique, plus ouvert, plus tolérant comme le nôtre, glander, ça pourrait presque être acceptable. Et pourtant, ça peut aussi être un acte de rébellion.
Quelles sont les sociétés qui ne stigmatisent pas la glande, dans lesquelles la glande est naturelle, où elle n'est pas discutée?
Toutes les sociétés qui ne valorisent pas le travail. Le travail au sens productif, faire plus, capitaliser, accumuler et penser quantitativement.
Mais regardez, les sociétés dites primitives, dites traditionnelles.
Ces sociétés dites primitives qui veut dire premier, qui veut dire elles sont là d'abord. C'est des sociétés justement qui ne produisent pas plus que le nécessaire et qui font la part des choses entre la production pour pouvoir se nourrir, la production religieuse, les histoires qu'on peut se raconter et puis toutes les actions sociales qui sont là pour relier les membres les uns aux autres.
Julien Bisson.
Oula.
Je me coupe la chic là.
Oui, on me coupe un peu la chic sur ces grandes...
Parce que l'idée aujourd'hui, c'est que à force de penser travail, on isole l'individu dans son rôle
de producteurs, si vous voulez. Mais du coup, on l'isole et on construit une société de plus en plus individualiste. Le glandeur, c'est pas qu'un individualiste. Il va à la rencontre de lui-même. Et j'insiste, il n'y a rien de plus difficile que d'aller à la rencontre de soi-même et de savoir ce que l'on veut vraiment, qui l'on est vraiment et quelles sont véritablement nos aspirations dans la vie. Si vous restez dans le système, eh ben alors c'est facile, vous allez réagir, être un bon élève ou un mauvais élève. Arrêtez d'écouter, enfermez-vous dans votre chambre, asseyez-vous sur votre canapé et je vous assure que c'est pas si simple.
Allez, quel glandeur êtes-vous? Racontez-nous tout au 01 45 24 7000 et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Je vous laisse avec Musique Basse d'Eddie de Préto.
Voici de la musique douce. Un peu de musique douce, douce. Voici de la musique douce pour entendre le pire. Car à trop être sourd, on ne pourra même plus luire. Juste de la drogue douce pour calmer l'artifice qui paraît des secousses dans un monde sans musique. Voici des calmants lourds pour abaisser les rires. Faut qu'il retire sourire dans ses fêtes sans tabou. Voici de la musique basse pour la faire moins festive, tout en gardant l'audace et restant sur le qui-vive. Voici de la musique douce, douce. Un peu de musique douce. La musique douce en guise d'éclaireur pour pas se noyer dans nos bains de sueur. Juste la drogue douce pour pas être surpris par géants tous de peur et de cris. Des calmants lourds pour jouer l'innocent, un œil en somme toujours prêt à temps. La musique basse pour entendre les splashs qui cognent en gouttes sur les spots intacts. Voilà que la lumière coule sur nos visages alarmes, le temps qu'on avale ce sourd moment de rage. Voilà que les cœurs roulent sur les planches colorées de rouge vif abrupt et de danse desséchée. Voici de la musique douce, douce. Oh, oh, oh. Ne danse plus à pas de loup. Il y a que ça qui prouve que tu l'ouvres. Et s'ils veulent nous écarter des pistes, ces gars-là savent au moins qu'on exige de danser à pas de géant. Avec des habits de circonstance, je l'avoue parfois très outrageant, mais ils font peur au point d'être agents. Je veux bien les mettre et remettre et crier combien je fais la fête, en montrant bien que sous mes pieds j'ai la plus belle des cultures dorées. Parfois psychée ou sophistiquée, je danse fort à me tuer à coups d'amour et de lettres. Qu'au petit jour à ses êtres, j'envoie mes sueurs et tous mes baisers pour sereinement aller me coucher. Ne danse plus à pas de loup. Il y a que ça qui prouve que tu l'ouvres. Et s'ils veulent nous écarter des pistes, ces gars-là savent au moins qu'on existe. Ne danse plus à pas de loup. Il y a que ça qui prouve que tu l'ouvres. Et s'ils veulent nous écarter des pistes, ces gars-là savent au moins qu'on existe. C'est de la musique douce, douce. Oh, oh. Un peu de musique douce, douce. Oh, 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 oh. Mmh.
Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
La paresse telle que nous l'avons décrite jusqu'ici et qui était la contemplation de Dieu est complètement effacée dans nos représentations d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, pour nos contemporains, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, le paresseux c'est quelqu'un qui est un oisif, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas. Le travail est tellement important dans la société d'aujourd'hui que chacun qui s'y déroberait apparaît comme quelqu'un qui, d'une certaine manière, est un délinquant, si vous voulez. Si bien que la personne oisive devient la cible d'un certain nombre d'insultes, traiter quelqu'un de paresseux, ce n'est pas du tout lui octroyer le droit de faire la sieste quand bon lui semble, mais c'est au contraire de le stigmatiser, de faire de lui un mauvais élève, de faire de lui un ouvrier qui n'est pas à l'heure, ou de faire de lui, éventuellement, dans le contexte en particulier de la colonisation, un sauvage qui n'est pas sensible aux valeurs du travail.
L'historien André Roche, en 2013, sur France Culture, dans une émission que j'ai eu le plaisir de présenter, André Roche qui a écrit « La paresse, un péché capital ». La paresse, l'un des sept péchés capitaux érigés par le pape Grégoire le Grand au VIe siècle. La paresse est un péché capital. Les péchés capitaux n'apparaissent pas dans la Bible, dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Julien Bisson, rédacteur en chef de l'Hebdomadaire Le 1, petite réflexion à ce que nous dit André Roche.
Mais moi, je ferais quand même une distinction entre le paresseux et l'oisif. Je ne suis pas certain que ce soit deux mêmes personnes. J'ai l'impression d'être très paresseux, mais pas du tout oisif. Mais peut-être d'ailleurs pour cette même raison. C'est-à-dire que, comme je suis paresseux, je me dis que j'ai besoin de me libérer du temps. Donc, je me dépêche de travailler pour pouvoir me libérer le temps ensuite d'être paresseux. Sauf qu'une fois que je me suis libéré du temps, et ben, du coup, malheureusement, la tension de l'ennui fait que j'accepte un autre travail qui fait que je repousse toujours plus loin le moment où je vais pouvoir me reposer. Mais je veux dire par là que la propension à la paresse, à mon avis, est très répandue chez nous tous. Alors que l'oisiveté elle-même, à mon avis, c'est un petit peu différent. Il y a une autre, c'est une autre dimension.
Vous êtes d'accord avec ça, Frédéric Schifter? Je rappelle que vous êtes écrivain et professeur de philosophie en duplex de Bayonne.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je voudrais rajouter une chose, parler un peu de mon expérience personnelle. Je me rappelle quand on me demandait, comme tout à l'heure, comme je le disais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, que je disais, je suis professeur de philosophie, on me regardait d'un drôle d'air, comme si vraiment je faisais quelque chose de parfaitement inutile, ce que je revendiquais, bien entendu, évidemment. Enseigner la philosophie, il n'y a rien de plus inutile. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, dans mon métier, quand on me demandait de participer à des réunions d'orientation des élèves, je refusais parce que ça ne m'intéressait pas. Je me moque totalement de l'orientation professionnelle de mes élèves. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient des citoyens et non pas des employés. Et je demandais, évidemment, ça tournait court, je demandais un peu à mes collègues de réfléchir au terme d'employé, trouver un synonyme comme utiliser, ustensiliser, manipuler, etc. Alors là, du coup, effectivement, je jetais un froid. Et effectivement, pour moi, le cours de philosophie, c'était d'une certaine façon une pédagogie de l'oisiveté. C'est toujours comme ça que j'ai conçu mon métier, je veux dire mon travail. C'est comme ça que j'ai un peu résisté, si vous voulez, à la peine que parfois cela me posait. Et j'étais content à la fin d'un cours quand j'avais fait comprendre à mes chers élèves que effectivement ils devaient se méfier des recruteurs, des ressources humaines.
Quel glandeur êtes-vous? Eh ben, quelques messages sur notre page Facebook. Anne Lebert qui nous dit « Je suis une glandeuse active. Glander me permet de penser, d'imaginer, de revivre par le souvenir des moments passés avec mes proches. Bref, la glande est pour moi un mode d'action du mental. » Bonjour Geneviève, on conclut avec vous.
Bonjour.
Alors il reste une petite minute et on conclut avec vous. Allez-y Geneviève.
Déjà ce que je voulais dire, c'est que je vous remercie pour votre émission et pour les propos de vos intervenants qui donnent du sens et qui nous réconcilient avec le glandage sans aucune culpabilisation. Donc ça fait du bien quand on est un vrai glandeur.
Et en quelques mots, vous êtes une glandeuse rêveuse, une glandeuse active. Quel type de glandeuse êtes-vous en quelques mots?
Moi, je suis une glandeuse rêveuse. Je peux passer un moment fou à regarder les papillons, à écouter les oiseaux sans rien faire. Et ce que j'avais dit hors antenne, c'est que effectivement, ce qui me fait toujours un peu sourire, c'est que quand mes amis me disent « qu'est-ce que tu as fait ?» ou « qu'est-ce que tu vas faire ?», moi, je dis rien dans ce qui a été évoqué dans l'émission. Et en fait, si je dis, par exemple, j'ai écouté de la musique ou j'ai lu, ce qui est souvent mon cas, les amis me disent « mais alors tu as fait quelque chose ». Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui... Mais j'ai dit « mais non, j'ai rien fait ». Pour moi, j'ai rien fait. Je me suis donné que du plaisir. C'était vraiment de la détente. C'était vraiment... Enfin, pour moi, c'était presque de la méditation. Mais il faut absolument... que quelque part, on me dise, mais tu as fait quelque chose.
Merci beaucoup Geneviève pour votre témoignage. Allez, merci à tous d'être venus. Merci Stéphane Trappier, dessinateur de La France qui glande chez Milan et Demi. Frédéric Schifter, merci infiniment. Je recommande votre journal Journée perdue chez Séguier. Merci aux équipes de France Bleu à Bayonne. Et merci Abdoung Daba du cabinet Sociolab. Allez, à suivre le roi de la cheminée colombienne et rédacteur en chef du 1, Julien Bisson. Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, l'hebdo qui se déplie à la une de votre journal. Et si vous changez de vie?
Oui, et je vous rassure, ce n'est pas Nicolas Hulot qui nous l'a soufflé, même si l'ancien ministre de l'écologie a peut-être lu ce texte de Marguerite Duras, issu du Marin de Gibraltar que nous reproduisons, où l'un des personnages souffle à l'autre. Moi je crois, il faut que tu quittes ton travail, ça ne va pas à ta vie. Et si nous changeons de vie donc, et si nous décidions à la fin de cet été où nous avons pu rêver d'une vie différente, d'enfin sauter le cap, de changer de travail, de région, voire de partenaire, de nom, de religion, en tout cas, le changement n'a jamais été aussi facile, comme nous l'explique la sociologue Catherine Negroni, qui est spécialiste de ces bifurcations de vie. L'idée d'occuper un même emploi toute sa vie a reculé, nous dit-elle, en même temps que l'idée de changement devenait plus valorisée, voire survalorisée dans la société. La pression sociale nous dit que si on ne change pas, on risque de rater sa vie. C'est l'idée qui gagne, une quête du changement, un impératif que se donnent les gens de se lancer dans une construction de soi. Plus je vais voir des choses nouvelles, pense-t-il, plus je vais voyager et plus je pourrai m'épanouir. Plus que jamais donc, nous pouvons rebattre les cartes, ne pas rester coincés par un choix passé, une injonction parentale, une orientation scolaire malheureuse, une carrière qui nous paraît vide de sens et que nous avons depuis longtemps envie d'envoyer bouler pour devenir boucher ou épicier. Bref, changer de vie pour trouver une vie, celle qui nous ressemble et nous rassemble.
Julien Bisson, pourquoi notre société prise-t-elle désormais tellement le changement?
Ça, c'est une question que nous avons posée à un autre sociologue, Jean Viard, qui explique dans notre numéro que nous sommes entrés dans une société de la discontinuité. Avant, dit-il, on pensait que l'augmentation de la durée de vie, la réduction du temps de travail se traduirait par davantage de vacances, mais que rien ne changeait fondamentalement dans l'ordre des choses. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Plus la vie est longue, plus on la vit par séquences courtes, car en permanence, on peut retenter sa chance en amour, dans sa vie professionnelle, en politique, où on peut changer de conviction, on peut déménager, s'expatrier, changer de hobby. Bref, on a une capacité à multiplier les opportunités. Et ces opportunités, qui étaient autrefois réservées aux classes aisées, se sont peu à peu démocratisées avec des gens qui commencent de nouvelles vies à 25, comme à 55 ans. Et même pour ceux qui ne changent rien, l'existence même de ces opportunités peut être vue comme bénéfique. L'important est de rêver de changer de vie, de savoir que c'est possible, car on augmente notre liberté de cette possibilité.
Et est-ce que tous les changements de vie sont pour autant positifs?
Non, pas forcément. Ils ne peuvent parfois n'être qu'une illusion. C'est le psychiatre Christophe André, bien connu de cette émission, qui nous l'explique en rappelant qu'il ne sert à rien de changer de métier ou de région si c'est pour emporter nos névroses avec nous. Au fond, la finalité de tout changement de vie extérieur est d'aller vers un mieux intérieur, d'être plus heureux, plus épanoui, moins stressé. Il y a une certitude, le changement est inévitable dans nos vies, car la vie, par définition, est le changement même. Alors même si je suis certain, mon cher Ali, que vous êtes heureux de retrouver cette antenne et vos fidèles auditeurs, qui sait si un jour vous n'aurez pas à votre tour envie de larguer les amarres, de vous lancer, qui sait, dans l'import-export de cheminées colombiennes. Après tout, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas de vie.
Non, je deviendrai certainement boulanger-pâtissier dans une autre vie. Merci beaucoup. Et si vous changez de vie, c'est la question à la une de l'hebdomadaire Le 1, à retrouver dès aujourd'hui en kiosque et en librairie. On vous retrouve mercredi prochain, Julien Bisson. Demain avec le Parisien Week-end, on s'intéresse au plaisir du petit déjeuner en France et partout dans le monde. Nous verrons si c'est vraiment le repas le plus important de la journée, s'il est grave ou non de le sauter. Êtes-vous plutôt sucré ou salé? Quels sont les petits déjeuners les plus extraordinaires que vous ayez dégustés? Faites-nous plaisir et faites-vous plaisir demain dès 9h au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Rémi Sistiaga et Kevin Pelot.